Revue de presse de l'April, semaine 38, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Bien mon cher Manu, si tu peux nous faire le sommaire.
Alors une bonne revue de presse, bien costaud. On va discuter de Québec, de problèmes d'espionnage encore une fois, DRM, un petit tour au bout du pont de l'Arne, Open Data, la quadrature du net, IBM et des grosses pépettes. Et pour finir, on parle de Munich et d'Ubuntu.
Canoë, logiciel libre, Québec pourrait sauver 265 millions de dollars. Un article de la rédaction. Donc on est au Canada.
Bon, alors c'est un institut de recherche qui a fait une enquête en fait sur ce que l'administration de Montréal pourrait gagner en passant au logiciel libre.
Donc c'est IRIS, Institut de recherche et d'information socio-économique de Montréal.
Voilà, et c'est le gouvernement du Québec, pas Montréal, juste Montréal. Alors on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions autour du passage au logiciel libre pour le gouvernement québécois, puisqu'ils se sont retrouvés face à la fin du support de Windows XP et qu'il fallait tout renouveler. Donc il y a une association
Facile
qui a beaucoup milité là-dessus, et ils ont été très déçus. Et finalement, la situation ressemble un petit peu à ce qu'on a en France, c'est-à-dire des politiques qui, dans les paroles, sont favorables au logiciel libre, ont même mis en place une sorte de groupe de travail, un truc un peu équivalent, mais dans les faits, rachètent du propriétaire en faisant des décrets pour contourner les procédures d'appel d'offres.
Il y a des grosses sommes qui sont en jeu, il est question de plus d'un milliard et demi de dollars. Et là,
Canadien.
Et là, l'Institut IRIS dit que chaque année, on pourrait en économiser 265 juste en passant à du libre.
Voilà, donc comme en France, bah on attend toujours les actions en réalité et pas juste des bonnes intentions lancées dans la nature.
Le Monde.fr, le gouvernement américain a-t-il tenté de mettre un accès secret dans Linux ? Un article de la rédaction.
Alors c'est le gros troll de la semaine, gros troll qui est basé sur un geste de Linus Torvald.
Ouais, alors Linus Torvald, qui est un troll à lui tout seul, hein, ça c'est clair. Et donc là, dans une conférence, on lui a posé la question en fait, enfin par rapport à tout ce qui se passe avec la NSA, Prism et compagnie, enfin qu'est-ce que...
On lui a demandé s'il avait été sollicité pour mettre une backdoor dedans.
Donc un Troyen, un cheval de Troie.
Voilà. Et donc bah oui.
Il a été contacté. Il a dit non. Ah. Attends, justement, c'est ça qui est important. Voyons, allez.
Il a dit non, mais il a fait oui de la tête.
Voilà.
En même temps.
Donc, effectivement, mais il a dit non. C'est important.
Oui, c'est important. Mais il y a eu pas mal de choses. Il y avait eu le cas aussi sur OpenBSD, il me semble, du
oui,
contributeur.
Mais je crois que ça n'avait pas été prouvé.
Ils n'avaient rien trouvé.
Mais là, en fait, bon, Linus Torvalds, il est connu pour être un gros troll. Il fait toujours des grosses blagues. Il est super grande gueule. Il est hyper provocateur. Il y a quelques temps, il avait fait un autre geste.
Hein.
Oui, il avait montré son majeur sur une vidéo quand on lui demandait ce qu'il pensait de Nvidia. Linus Torvalds, il est c'est un gros provocateur. Donc, je pense qu'actuellement, il doit se fendre la poire chez lui.
Oui, parce que ça a été repris dans beaucoup de médias. Et en gros, parce que Linux, c'est utilisé dans tellement d'endroits, dans tellement d'environnements. Les téléphones portables, par exemple, avec Android. Donc, imaginez qu'il ait fait ce petit oui de la tête, délicat, intelligent, et qui vous indique qu'il n'a pas le droit d'en parler, parce qu'effectivement, il risque d'aller en prison, tout simplement.
Il y a une autre personne qui a dit ça derrière.
Exactement.
On ne puisse en parler. Et donc, moi, je pense que c'est la provoque. L'article est pas mal, parce qu'il rappelle qu'avec le logiciel libre, tout le monde peut voir le code source.
Oui, et que même s'il avait mis un Troyen, c'est pas sûr qu'on l'aurait vu, mais en tout cas, il y a toutes
les personnes. En tout cas, c'était compliqué.
Il y a quand même eu déjà des précédents où il y avait des personnes mal intentionnées qui avaient essayé d'injecter du code malveillant dans Linux, et ça s'était retrouvé assez rapidement, et ça avait tout de suite été dégagé. On peut pas faire de choses n'importe quoi, n'importe comment.
Surtout qu'après un coup comme ça, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui vont aller jeter leur nez dedans.
En tout cas, n'oubliez pas, le logiciel libre, c'est la seule chose qui vous garantit la traçabilité des sources, et donc venez jeter un œil, c'est bien.
Actualité.com, DRM, écosystème fermé, une TVA forte contre Kindle et iPad, un article de Nicolas Gary. Donc l'affaire a commencé la semaine dernière dans une commission parlementaire où un député proposait que l'on interdise les gens qui vendent des livres par correspondance d'offrir les frais de port. Donc les gens qui étaient visés, c'était bien sûr Amazon, qui a les moyens de payer les frais de port et qui, évidemment, comme le prix du livre est réglementé, se met nécessairement en position bien plus confortable en termes de concurrence. Et là-dessus, Isabelle Attard, qu'on connaît bien, hein, puisque...
L'a bien connue et l'a bien appréciée.
Oui, puisqu'elle est très pertinente sur nos sujets et très réactive également. C'est elle qui a posé des questions à tous les ministères pour savoir quelles étaient leurs dépenses informatiques. Lui est rentrée était dans l'art, il faut dire qu'ils sont pas du tout du même bord, et elle a dit la vraie question c'est pas celle-là, si on vote ça, ça changera rien du tout, la vraie question ce sont les e-books, les livres électroniques, et qui sont bourrés de DRM, notamment pour ceux qui sont vendus par Amazon.
Ouais. DRM, les menottes numériques.
Les menottes numériques, ouais. Ouais, donc les DRM en fait c'est quand même quelque chose qui est assez particulier au monde du numérique, parce que en fait les services qui sont proposés par Apple, ce sont bien des services, ce sont pas des livres
Apple, Amazon,
et Amazon et ouais. Les autres, et en fait c'est les DRM ne sont valables que dans le monde du service, parce que un livre, une fois que vous l'avez, bah vous l'avez, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas du tout les droits de faire ce que vous voulez, vous êtes complètement dépendant du bon vouloir d'Amazon, qui peut vous supprimer vos livres, vous interdire de les lire, de les louer, de les vendre, de les prêter.
Ils ne suppriment pas les livres, pour le coup. Ils voilà. Suppriment le droit de
le
les
droit
lire.
De les lire.
La position d'Isabelle Attard s'appuie sur une position de l'Europe, qui dit, à partir du moment où le client n'est pas propriétaire de sa copie, c'est-à-dire propriétaire, une fois qu'on est propriétaire, on en fait ce qu'on veut, on a le droit de le revendre, etc. Ça n'est plus un livre, c'est un service de lecture, ce qui est très différent. Et on n'est pas du tout dans la même catégorie de commerce. Et donc elle dit, bah, comme on n'est pas dans la même catégorie de commerce, c'est que le consommateur y perd.
Il y a plein de clauses.
Il y a plein de clauses dans tous les sens. Les et puis si, là, on parle en plus de l'e-book, mais c'est pareil dans la vidéo à la demande, par exemple. Hein. Eh bien, c'est pas du tout le même service. Le client en a beaucoup moins pour son argent, et donc du coup, on n'est plus dans ce principe de culture qui peut se répandre facilement, etc. Donc on taxe à 19,6 et non pas à 5,5.
Et ça, je pense que ces entrepreneurs qui vendent donc des droits de lecture, passer à 20% plutôt que 5%, ils vont vraiment faire la tête, ça va leur plomber les bénéfices. Donc c'est une approche que je trouve originale et intéressante.
Alors malheureusement, c'est pas un projet de loi, c'est quelque chose qu'elle a fait en réaction à cette proposition qui lui semblait absurde, donc c'est un côté un peu provoque, mais c'est extrêmement pertinent. Et donc ça fait plaisir à entendre et ça lance le débat parce que c'est paru à droite à gauche et ça fait quand même des vagues. LaDépêche.fr, bout du pont de l'Arne, les logiciels libres sont accessibles. Un article de la rédaction.
Donc on parle d'une association, l'association qui s'appelle Loli Potou. Donc ils sont basés dans le sud, pas loin.
Sud-ouest, du côté de Mazamé, donc pas très loin. Et un bon nombre de nos auditeurs, c'est un GUL, hein, c'est une association locale, dont, ce genre d'association dont on aime parler régulièrement.
Comme tout GUL, ils seront ravis de vous accueillir, de vous aider à vous mettre au logiciel libre. Donc bah, allez-y, n'hésitez pas à les solliciter, ils pourront vous aider à vous lancer là-dedans. Et vous verrez que le monde est bien meilleur de ce côté-là de la barrière.
Ils ont l'air d'avoir une forme de permanence à l'école du bout du pont de l'Arne, le jeudi à 20h30. Et bon, l'article remonte toute une pataquès de sujets sur lesquels ils ont l'air de s'intéresser. Hein, Prisme, mais aussi les supercalculateurs et les téléphones portables.
Voilà, c'est une parfaite mise en pratique du principe de agir local, penser global. Et l'article est bien, il est court, hein, il est assez dynamique. Mais on voit que la personne qui l'a écrit sait de quoi elle parle. Lagazette.fr, Open Data, ministère, ouvrez vos données, sommes le Premier ministre. Un article de V. Fauvel, nous ne connaîtrons pas son prénom, peut-être Vincent, Véronique, on ne sait pas.
Voilà, donc bah ça fait un peu la suite, ou même le parallèle, on va dire, par rapport à la circulaire Hero. Là, ça concerne en fait l'ouverture des données de la France. Et puis, bah un peu comme la circulaire Hero, c'est un coup en avant, un coup en arrière.
Non, tu peux pas dire ça, je veux dire, il y a une vraie politique d'open data depuis 3 ans en France. Hein, ça
oui,
va démarrer très très fort.
Ça se sent.
Mais si, si, il y a 3 ans, ils ont mis ça en place et il y avait plus de 300 000 jeux de données qui ont été mis à disposition.
Et aujourd'hui, il y a plus de 300 000 jeux de données qui sont
mis
à disposition.
Mais pas beaucoup plus. Oui.
Bah, je crois que c'est le même nombre.
C'est à peu près sensiblement pareil. En gros, on n'a pas bougé en 3 ans.
Voilà. Et donc, tout ça, ça a une bonne impression de coup de pied au cul. Il faut se remuer. À mon avis, il y a des bonnes bases. Il fait un démarrage, mais il n'y a personne qui a poursuivi le travail. Ouais. Donc, Regard Citoyen remonte tout ça, ils analysent, ils creusent.
Et donc, sur cette affaire-là, ils les ont un petit peu taclés, notamment en faisant remarquer que l'Élysée ne donnait pas l'exemple.
Eh oui, ils ont des données, mais qui ne sont pas libres, et loin de là. Donc, il y a au moins un travail à faire en partant du haut. Donc, c'est bien que le Premier ministre en parle, mais c'est peut-être parce que voilà, le haut est trop haut pour lui, je ne sais pas.
Petit regret de ma part, je ne sais pas si c'est dans la circulaire, en tout cas, ce n'est pas dans l'article, c'est des questions importantes sur l'open data, c'est les formats de données. C'est la pérennité des données. Est-ce que c'est envoyé régulièrement? Est-ce que quand ce sont des infos qui sont mises à jour, est-ce qu'elles sont arrivent suffisamment tôt pour qu'on puisse les exploiter et pas se retrouver dans des délais trop brefs? Est-ce que le format est stable? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que c'est documenté? Toute une série de petits éléments qui fait que voilà, balancer des données, c'est une chose, mais il y a 1000 façons de le faire et effectivement, on peut faire ça vraiment salement ou de telle sorte que d'autres acteurs ne puissent pas les utiliser ou difficilement. Et ça, c'est des points importants et c'est dommage que ce soit pas évoqué ici. Numérama, la quadrature du net censurée par le Robocop YouTube, un article de Guillaume Champeau.
Robocop, parce qu'il s'agit d'une vidéo de Robocop avec le tueur, la machine tueuse qui est un peu lâchée au petit bonheur. Oui. Et tout ça en parallèle de l'ACTA et des lois liberticides qui ont presque été mises en place. Donc c'était une vidéo un peu assez sympathique, de 3 minutes.
Hein, alors nos amis de la Quadrature aiment bien faire des détournements. Ils ont repris la scène de Robocop, hein, le vieux film où il y a une sorte de robot policier qui échappe au contrôle des gens qui en font la démonstration et qui flingue un costard-cravate dans le comité d'administration de l'entreprise qui a financé le projet. Scène assez mythique et assez symbolique. Et donc ils avaient évidemment fait un parallèle en doublant le personnage et tout un texte sur ACTA, etc. Et au travers de la politique anti-piratage, cette vidéo a été supprimée de YouTube.
Voilà, donc ça a quand même fait un peu le buzz, parce qu'une vidéo une vidéo qui dénonce les problèmes de droits d'auteur, qui se fait censurer pour des questions de droits d'auteur, c'est quand même assez marrant.
En même temps, c'était la vidéo.
En même temps, c'était la vidéo, mais bon, c'était un peu présenté de manière parodique ou détournée. C'était une parodie, donc c'était un peu violent, moi je trouve, de la part de MGM, puisque c'est de ce groupe là qu'il s'agit. MGM a demandé la censure, alors que bon, pour moi, ça tombe plus dans le domaine de la parodie ou de la rigolade que vraiment la volonté du piratage ou autre.
Alors la vidéo a pas disparu, ils ont pas été attaqués les serveurs de la Quadrature.
Alors l'article précise que c'est probablement le résultat de Content ID, qui est un système automatique qui a été mis en collaboration entre les ayants droit et YouTube, et qu'il est possible que le machin ait été traité de façon automatique, un petit peu à la hache, mais ce qui montre le problème que ça pose, c'est-à-dire qu'on a plus de discernement dans la façon de faire.
Au moins, c'est encore hébergé sur le site propre de la Quadrature.
Oui, parce qu'il y avait plusieurs versions.
Voilà, et là, eux, avant qu'on aille l'effacer, il va falloir qu'il y ait de la justice qui passe derrière.
Il y a d'autres versions sur YouTube également qui sont toujours en ligne.
D'accord, donc allez jeter un œil, parce que c'est rigolo. Et puis, il faut soutenir la Quadrature, qui défend nos libertés, rappelons-le.
France 3, Languedoc-Roussillon, IBM va investir 750 millions d'euros à Montpellier pour son logiciel Linux. Un article de Fabrice Dubot.
Alors, je crois qu'on pourrait parler $1 milliard, parce que c'est en parallèle à ce qui avait été fait il y a une dizaine d'années,
oui,
où IBM avait annoncé, ils avaient dépensé $1 milliard de promotion des logiciels libres, enfin Linux surtout, hein, le noyau et les systèmes d'exploitation.
L'article nous apprend quand même que Linux appartient à IBM, hein, c'est ce que je dis dans le titre. Hein.
Bah, en fait, il appartient à tout le monde, quelque part, il n'y a pas de mal.
Bah, la version d'IBM, on va dire, mais c'est vrai que le pronom est un peu trompeur.
Donc là, il est question de grosses pépettes et d'un lieu en particulier, Montpellier.
Et oui, donc développement important, ça va faire de l'activité sur Montpellier, donc tant mieux pour eux. Il s'agit de mettre en place un service client et des serveurs pour faire des services en cloud, service hébergé en nuage, comme on dit. Oui, c'est vrai qu'il y a 10 ans, ils étaient arrivés tambour battant en disant « Nous, on investit lourdement dans Linux ». Et il y a 10 ans, la reconnaissance n'était pas la même qu'aujourd'hui. Dans le monde professionnel, GNU Linux n'était pas considéré comme un truc sérieux. Les logiciels libres, c'était encore considéré comme des trucs d'amateurs. Et le fait qu'une boîte aussi sérieuse qu'IBM mette le paquet d'investissements là-dedans, ça avait été quand même un signal très très fort. Et on voit que 10 ans après, ils recommencent, donc ils ne sont pas dégoûtés, ça s'est pas mal passé, bien au contraire. ZDNet, Munich incite ses citoyens à passer de Windows XP à Ubuntu, un article de Thierry Noisette.
C'est pas un nouveau sujet, Munich, on le sait, toute la cité est passée au libre, et là, eh bien, ils profitent, je dirais, de l'obsolescence programmée de Windows XP.
L'obsolescence programmée, c'est quand même méchant.
Ah, mais c'est
Windows
bien
XP,
ça
ils ont quand même, non, ils ont quand même. Ça, c'est de la mauvaise foi, parce que Windows XP, c'est quand même plus de 10 ans de vie.
Largement. Mais
et
y a
dans le monde de l'informatique, c'est quand même pas mal.
C'est pas mal du tout, mais en attendant, il y a une date là de péremption, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de support de la part de Redmond. Et donc, tous les problèmes de sécurité, et Dieu sait qu'il y en a, tous ces problèmes qui vont apparaître dans le futur ne seront plus forcément corrigés par Microsoft. Et donc, pour éviter de se retrouver un poil sur Internet, Munich recommande à ses citoyens et distribue des versions d'Ubuntu.
Alors, on rappelle que Munich, la municipalité de Munich, est passée au logiciel libre. Ça fait partie de ces municipalités qui a mené le projet jusqu'au bout. Et ça n'a pas été sans mal non plus, parce que Microsoft a fait des enchères descendantes en disant « Si vous restez chez nous, on va vous faire pas mal de rabais. Hein. » C'est souvent comme ça que ça marche. Et c'est un des trucs qui, dans les municipalités ou les entreprises qui veulent migrer, qui fait un peu mal au cœur, parce que souvent, c'est un argument de négociation. Et il n'y a pas nécessairement le truc, c'est en disant « Attention, si vous ne nous faites pas un tarif, on se barre. »
Et c'est Steve Ballmer en personne qui avait déboulé à Munich pour aller faire la défense de son entreprise.
Le pauvre était en vacances en Suisse, et il a fallu qu'il interrompe ses vacances, et ça, c'est pas drôle.
Et ça montre aussi, enfin quelque chose d'intéressant là-dedans, ça montre aussi le gros avantage du logiciel libre, c'est que le logiciel libre, c'est une situation qui pourrait pas arriver parce que là, Microsoft n'a arrêté le support de Windows XP, et il y a plus personne qui peut le supporter. Donc aujourd'hui,
c'est
on
vrai
le
qu'on
subit.
A du mal à supporter Windows.
On a du mal à supporter
c'est
Windows.
Pas supportable.
Mais si on avait un logiciel, un OS avec du logiciel libre, et ben il suffirait que quelqu'un ait la bonne volonté pour continuer le support et on n'aurait aucun problème à faire tenir une version pendant des années sans avoir aucun problème à long terme. Alors que là, bah, y a une boîte qui dit stop et tout le monde est obligé de dire stop.
Eh bien, on a fait le tour. Manu, Nicolas, merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde.
Et au revoir, tout le monde.